Mario. Tout le monde
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi, la radio de toutes les musiques.
Bien, vous êtes sur Radio Kapi. Aujourd'hui, dans Kapi Service, nous parlons de la lutte contre la corruption en milieu universitaire, surtout en cette période où on organise les examens de 10e session. Vous savez, après avoir été récalé en première session, de nombreux étudiants, surtout ceux qui ne sont pas, se sont pas bien appliqués tout au long de l'année académique, ne jurent que par la corruption en 2e session pour cette catégorie d'étudiants, c'est le quitte ou double, à coup d'argent ou autre moyen. Il n'hésite pas à acheter les points pour passer des promotions. Alors, comment lutter contre ces antivaleurs dans nos milieux universitaires? Professeur Gauthier Moustengue, vous êtes sociologue et enseignant à l'Université de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, comment, quelles sont, d'après vous, les raisons qui font qu'aujourd'hui, la corruption a élu domicile en milieu universitaire, surtout pendant la période des examens de 2e session?
Je commence par définir d'abord ce que c'est la corruption, parce que c'est une incitation à agir contre son devoir. C'est une acceptation de dons illicites. C'est une perversion. Et la corruption voit surtout l'aspect moral. Moi, personnellement, je ne crois pas que la corruption a élu domicile dans les milieux universitaires, surtout celui de Kinshasa où je suis. Parce que je ne connais pas de cas de corruption dans le milieu universitaire, dans ma faculté ou à l'université de Kinshasa. Mmh. Mais c'est surtout les gens qui sont dessus, les gens qui cherchent, les gens qui ne font pas effort, les étudiants qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas fait effort, ils n'ont pas bien étudié, qui expliquent leur faiblesse par la corruption. Mais je ne vois pas vraiment un professeur d'université, titulaire de cours, aller prendre l'argent auprès de l'étudiant pour lui donner des points. Cet argent-là, il va lui donner combien? Et par rapport au salaire du professeur, le professeur aujourd'hui n'est plus minable. Le professeur travaille, le professeur a régulièrement son salaire, l'État lui donne son salaire. Je ne vois pas ce professeur qui va prendre, l'étudiant va lui donner combien pour résoudre quel problème. Donc, monsieur le journaliste, je ne crois pas, à moins qu'on me prouve le contraire, et je souhaite qu'un étudiant passe sur votre émission, par exemple, ou bien, s'il a peur que vous puissiez bien l'interroger et cacher son nom, qu'il démontre un acte de corruption que lui-même a vécu. Mais voilà. En tout cas, je ne connais pas un acte de corruption à l'université de Kinshasa.
Voilà, vous ne connaissez pas un acte de corruption là-bas. Bon, il y a toujours des cas qui nous ont été rapportés dans plusieurs universités. Alors si il y a des enseignants qui s'adonnent à de telles pratiques, pendant cette période, il y a certains qui s'organisent pour faire disparaître les points des étudiants, et comme ça, ils vont venir et voir comment marchander et puis gagner un peu plus d'argent.
Non, la perte des notes des étudiants, c'est souvent c'est une manipulation des étudiants eux-mêmes. Quand un étudiant entre dans l'auditoire pour passer son examen, s'il est sûr qu'il ne va pas réussir, il ne comprend rien de cet examen, il fait effort de ne pas donner son papier, surtout s'ils sont nombreux. Des fois, les surveillants ont des difficultés de contrôler, de bien contrôler. S'il y a moins de surveillants et qu'il y a beaucoup d'étudiants, l'étudiant lui-même fait effort de ne pas donner son papier, ou il donne un papier qui ne porte pas le nom, ou bien qui porte un autre nom, un nom fictif. Mais je ne vois pas un professeur vraiment perdre le papier de l'étudiant. Les papiers sont bien gardés, bien conservés. Un étudiant qui a déposé qui a remis son papier d'examen, ce papier est corrigé aux étudiants. Vous savez, monsieur le journaliste, les étudiants arrivent même à dire, même quand j'étais étudiant, on les racontait. Mais aujourd'hui, je l'ai vu moi-même, j'ai trouvé que c'était faux. Certains étudiants disent qu'il y a des profs qui ne corrigent pas l'examen, plutôt qui ne corrigent pas tous les papiers d'examen. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette ça en l'air et maintenant, les papiers qui tombent juste devant lui au centre, il les prend pour corriger. D'autres qui se posent ailleurs là, il les jette et donne des points fictifs, des notes fictives. C'est archi faux. Je ne connais pas un professeur qui fait ça. Et aussi, mais vous devez savoir une chose. Le professeur n'est pas libre que vous croyez. Le professeur est régi par les règlements académiques, par les lois du pays. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi de son gré, non. Et le professeur est aussi contrôlé. Est-ce que vous savez que la PQ nous contrôle aussi? Quand nous allons en réunion là-bas, on se dit certaines choses qu'on trouve illicites, qu'on trouve dégradantes pour un professeur, qu'on trouve moins recommandé. Et on nous fait des recommandations et des observations là-dessus. Vous ne devez pas croire qu'il n'y a pas de contrôle au niveau, dans les fonctions de professeur. Non. Donc, en tout cas, je veux qu'un étudiant
oui.
dise concrètement ce qu'il a connu comme corruption, acte de corruption. En tout cas, je veux aider cet étudiant jusqu'à ce que la justice sera rendue.
D'accord, on va accueillir Jules Niemboué qui nous appelle des Lubumbashi. Jules, bonjour.
Bonjour, bonjour Alain.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la corruption en milieu universitaire lors des examens de 10e session?
Ok, merci. Je veux dire à notre invité qu'il a probablement raison, parce que des pratiques, c'est souvent les assistants. Les professeurs ne les font pas, au moins les assistants. Et avec les assistants, ce sont des étudiants eux-mêmes qui ouvrent ces circuits-là, qu'ils appellent circuit. Parce que nous avons beaucoup plus d'étudiants qui viennent des écoles-là, ils inutiles, comme ici à Lubumbashi, nous avons des écoles spécialisées dans la production des finalistes inutiles. Donc un étudiant qui n'a rien appris à l'humanité, il serait détecté par miracle, parce qu'il a été dans une école-là, c'est pas destructible. Maintenant, il arrive là, il cherche par tous les moyens comment réussir. C'est comme ça qu'il s'arrange avec les
assistants.
Les professeurs, vraiment, oui. Les professeurs, non. Je n'ai jamais vu un professeur qui donne cours. J'ai appris aussi, j'ai été avec le professeur, je n'ai jamais vu ça. Les circuits s'ouvrent souvent avec les assistants. Et ils les font par force. Ce sont les étudiants qui les forcent, comme ici à Lubumbashi. Aucun étudiant ne peut prouver les fonds. Je vous remercie.
Merci. Alors, d'après Jules Niemboué, ça s'appelle circuit là-bas. Ce sont les assistants qui s'adonnent à de telles pratiques et d'après lui, pas les professeurs. Deo Gracias, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour.
Je suis à Kananga, Radio Kapi.
Vous êtes plutôt à Kananga Tati. Et c'est pas Lubumbashi. Alors, on vous écoute, Deo Gracias.
Oui. Normalement, ce qu'il y a à savoir est que l'année académique a des sessions. Il y a la première session et la deuxième session. Dire seulement que les étudiants qui passent à la deuxième session sont manipulés par la corruption, tout ça. Bon. Non, c'est très fort. Parce que l'étudiant peut rater à un examen de la première session et qu'il compte se rattraper à la deuxième session. Et aussi, s'il parvenait à échouer la deuxième session, carrément, il reprend l'année. Mais la corruption intervient quand même. Certains de professeurs qui laissent les copies auprès des assistants et chefs de travaux pour qu'ils corrigent. Et les assistants et chefs de travaux ont souvent des contacts avec les étudiants souvent très faibles, qui ne se donnent pas souvent à la lecture des cours, et par rapport à l'influence de leurs parents et autres, bon, ils entrent et collaborent avec ces assistants et chefs de travaux pour qu'ils puissent relever les côtes. Et ce n'est pas sûr que non, les professeurs, c'est le professeur qui en sont auteurs.
Oui.
Parce que les professeurs arrivent souvent, ils donnent souvent, comme chez nous ici à Kananga, nous avons les professeurs visiteurs qui viennent, ils donnent cours, souvent on fait présenter l'interrogation, les TP, on laisse, il part, il envoie que l'examen. Et vous voyez que peut-être que si on n'a pas envoyé les copies à temps, on peut reléguer un assistant, que ce professeur soit un chef de travaux pour corriger, et que ce chef de travaux connaissant mieux les étudiants, et il a aussi des contacts avec les parents des étudiants, souvent il peut entrer en contact, c'est pour manipuler ça. Non, moi ce sont les actes souvent qui manquent de la conscience de la personne, parce que la personne connaît qu'elle est intelligente, elle se donne au cours, jamais ne peut pas accepter là des pratiques pareilles. Moi je connais mon cas et je sais que je suis quand même exemplatif dans ces cas-là souvent. Dans beaucoup plus d'années, je passe souvent la deuxième session. Si je reste un examen à la première session, je suis soit un échec profond ou léger. Car au moins, je présente la deuxième session, je lis régulièrement mes cours et j'ai réussi. C'est comme ça que je passe. Lorsque les faits disent, j'ai traversé à des étapes pareilles. Je passais la première session deux fois, des fois je passais la deuxième session, mais je lisais les notes. Mais ce qui est à la fête de la corruption aussi, il faut relever aussi la situation de notre gouvernement. Vous savez que les assistants, des fois, sont aussi mal payés des fois.
D'accord, d'accord. Donc, vous reconnaissez que cette pratique existe, mais ce ne sont pas les professeurs qui les font. Bon, c'est beaucoup plus les assistants qui s'arrangent avec les étudiants pour avoir un peu plus d'argent. Docteur Christian nous appelle des Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption dans nos universités?
Monsieur le journaliste, le sujet est vraiment un très bon sujet que j'ai aimé. Ici à Kananga, moi j'ai fait beaucoup d'années ici à Kananga, je connais un peu beaucoup des institutions de la place. La corruption règne dans nos milieux ici. La corruption règne. J'ai entendu mes prédécesseurs dire qu'ils n'ont jamais entendu un prophète qui est corruptible. Mais moi je dis que c'est faux et archi-faux. D'une part, ils ont raison, d'une part, ils n'ont pas raison. Je me souviens, moi, quand j'étais en deuxième graduat à l'Université Notre-Dame du Kasaï, il y avait un professeur qui était corruptible. Et ce professeur-là nous parlait bien sans mâcher les mots. Et il y a aussi un professeur qui nous parlait, quand lui a les copies de correction, il met les copies en l'air et les copies qui tombent sur la table, ce sont les copies-là des gens qui vont réussir et les autres copies-là, ils vont donner les chèques pour dire que les gens puissent les voir. Ici, à Kananga, qu'est-ce qui se passe? Surtout dans ce qu'on appelle institut supérieur. La corruption bat record. ISM, ISP, toutes les institutions supérieures là. Moi, je vois la corruption qui bat record. Vous voyez, à la deuxième session ici, les étudiants qui font ce qu'on appelle des circuits marchés, ils entrent au travers les assistants, tels qu'ils ont dit, les épouses des professeurs. Le professeur là qui a délégué cette épouse à son assistant là pour ne pas être sali au travers de cette personne là, on pourra le professeur. Et d'une part, ce qui se passe aussi, il y a pendant les périodes des examens ici, certains étudiants qui entrent, qui accèdent avec les téléphones dans des salles des examens, en complicité avec les surveillants et autres personnes dans la salle d'examen. Ça favorise toujours la corruption. Maintenant, à mon humble avis, pour remédier à tout cela, il faut qu'il y ait des rigueurs, des sanctions là terribles pour que quiconque puisse ou favorise la corruption soit exclu de l'institution. C'est ce qui se passe à mon université, là où j'ai fini à l'université Notre-Dame du Kasaï. Série égale à exclusion. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans des ISP, ISTEM et autres. Là-bas, quand un étudiant triche, donc on peut le pardonner, annuler soit l'examen du jour, soit s'il est fort avec l'argent, on ne peut même pas annuler l'examen, on ne peut même pas l'exclure. Il faut instaurer le système d'exclusion. Et tout que cela va aussi renforcer les étudiants à travailler, qu'il ait une bonne base de préparer bien les examens.
Merci. Merci, docteur Christian. Je reviens à vous, professeur Gauthier Moussengue. Vous avez suivi docteur Christian qui a reconnu que dans son université, il y a certains professeurs corruptibles et on parle beaucoup plus des assistants qui s'organisent avec les étudiants pour qu'ils leur attribuent de points moyennant les billets des banques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Monsieur le journaliste, si vous avez bien suivi votre ce monsieur qui a parlé de Kananga, il n'a fait que raconter Les racontars, permettez-moi la tautologie, ça signifie que des choses qui se racontent, il n'a pas parlé de ce qui est vécu. Donc ça signifie que lui-même n'a pas vécu ça. Il a même dit ce que j'ai dit avant. Et il dit, nous, quand nous étions étudiants, on disait, il y a certains professeurs qui ne corrigent pas les papiers, ils jettent en l'air certains qui se pose sur la table, il corrige ou bien il donne des points, de bons points, les autres qui tombent par terre, de mauvais points. Il a juste dit ce que nous on racontait, alors que c'est faux. Tout ça, ce sont des racontards. Il est vrai que il y a certains actes de trafic d'influence au niveau des étudiants. Il y a certains étudiants qui se croyant très proches d'un professeur. Parce que vous savez que nous, les professeurs, nous aimons beaucoup. Généralement, nous aimons beaucoup les étudiants intelligents. Les étudiants intelligents deviennent nos amis. Alors, il y a certains étudiants qui font le trafic d'influence. Et, ils se sentent très proches du professeur. Alors, il va raconter aux étudiants que si quelqu'un donne autant, si vous donnez par exemple les 10 000 francs, je suis en train de récolter l'argent pour remettre la liste au professeur et le professeur va vous donner le point. C'est vrai, ces pratiques-là existent, mais ce sont les étudiants qui le font, c'est le trafic d'influence. Alors qu'en réalité, c'est rien et le professeur ne connaît pas ça. Ces cas-là arrivent, c'est souvent dénoncé et les étudiants comme ça sont souvent sanctionnés au niveau des départements, au niveau de la faculté. On le dit, on traite ces cas-là même au niveau des conseils. Et vous savez, des gens comme ça, des jeunes gens comme ça, quand ils vont raconter aux étudiants que le professeur X a demandé autant, moi je récolte l'argent, je vais donner vos noms, et ça va paraître comme si c'était vrai. Alors
mais
que
par rapport, oui, on a suivi que certains ont reconnu que ce sont les assistants qui font beaucoup plus ces tripatouillages avec les étudiants. On parle même du phénomène point sexuellement transmissible avec les filles. Ils s'organisent pour leur donner des points moyennant la satisfaction sexuelle, le plaisir sexuel.
Bon, là-bas c'est deux choses différentes. Donc je commence par le premier. Donc les assistants qui sont corrompus par les étudiants. Vous savez, à l'université, l'assistant n'est pas titulaire de cours. C'est le professeur qui est titulaire de cours. Il est vrai que le professeur, parce que l'assistant, le professeur doit encadrer l'assistant sur tout le point, parce que l'assistant est préparé à l'enseignement. Donc, c'est comme ça, le professeur peut aussi donner des copies d'examen à l'assistant pour corriger. Mais par après, quand le professeur reçoit des copies, il observe, il voit, parce qu'il doit encadrer son assistant, voir certaines copies, est-ce que l'assistant a bien corrigé. Alors, si le professeur apprend que l'assistant a fait ceci, cela, je pense que le professeur va sanctionner l'assistant. Le professeur ne va pas sanctionner, mais il va faire rapport et l'assistant sera sanctionné. Peut-être qu'il y a des cas comme ça, mais moi je ne connais pas, je sais qu'il y a trop de racontards en cette matière. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui sont à la base de tous ces désordres, qui prennent aussi l'argent au nom des assistants. Mais si ce cas-là se présente dans une université, on doit sanctionner. Je demande aux étudiants qui vivent des cas comme ça, si c'est vrai, passez voir un professeur, passez voir le chef de département, ou bien si vous avez peur que vous soyez aussi sanctionné, écrivez sur un papier. Et vous allez jeter au bureau du chef de département, vous verrez que même si c'est anonyme, le chef de département va faire des enquêtes pour vérifier si ce cas-là est vrai. On ne laisse pas des choses comme ça. Moi, je suis à l'UNIKIN, on ne laisse pas des choses des choses liées à la corruption. Non. Deuxièmement, vous parlez de points
sexuellement transmissibles.
Monsieur le journaliste, je vais vous parler d'un cas vécu à Kisangani, parce que j'avais fait mon graduat là-bas. Nous étions dans le littoral, on était très très nombreux. Et il y a eu une étudiante qui est entrée au cours en retard, pendant que l'enseignant enseignait, tout ça, c'était l'après-midi. Et l'étudiante s'est bien maquillée,
à l'Unijupe est entré au cours, et on a crié, c'était en premier graduat, on a crié, le professeur était obligé d'interrompre le cours finalement, et l'étudiant s'est imposé de se mettre au premier banc alors que c'était déjà plein. Finalement, pour éviter les dérangements, bon, le professeur a demandé, on a déplacé un garçon pour placer la fille. La fille s'est mise là-bas.
Oui.
Alors, on nous a raconté aussi par après que cette fille qui s'est... Bon, il est vrai que quand la fille est entrée, on n'a pas fait 30 minutes, le professeur a interrompu le cours et nous a demandé de partir. Alors, nous avons, on était curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. On nous a dit que cette fille-là, cet étudiant-là, était sans slip et qui s'est mise au premier banc, écartant les jambes. Et le professeur a fait signe à une assistante et on a cherché cet étudiant-là qui a été sanctionné. Donc, c'est pour vous faire voir que les étudiants eux-mêmes sont à la base de la corruption. Alors, certains, je ne sais pas si certains réussissent, mais peut-être, ce sont peut-être les déceptions qui expliquent toujours ça. Il y a des étudiantes intelligentes. Moi, ces histoires de points sexuellement transmissibles, en tout cas, ça se raconte. On en parle. Mais moi-même, je suis enseignant à l'université. Je suis titulaire de cours. Je n'ai jamais vécu ça. Donc, j'étais aussi étudiant. Bon, on racontait. Ah non, cet étudiant, vous savez souvent le mal qu'il a, c'est quoi? C'est quand il y a certaines personnes qui croient qu'une étudiante ne peut pas réussir. Quand une étudiante réussit, on dit, et puis ce sont toujours leurs amis. Ils disent, ah non, celle-là a réussi parce qu'elle sort avec tel prof.
Souvent,
vous savez, quand on est proche d'une étudiante,
oui.
Nous sommes plus à l'aise quand on est proche d'un étudiant. Parce que bon, les étudiants intelligents, je vous l'ai dit, le professeur aime beaucoup les étudiants intelligents et souvent ces étudiants deviennent des amis des profs.
Professeur Gauthier, je reviens.
Les étudiantes intelligentes, oui. Mais nous ne sommes pas... des fois, bon, l'étudiante intelligente, c'est possible qu'elle soit aussi amie du professeur, mais d'une manière correcte. Ça signifie que vous l'approchez parce que vous voulez l'encadrer à ce qu'il devienne, par exemple, assistant, pour qu'elle réussisse bien brillamment, face des distinctions, vous l'encadrez.
D'accord.
Comme ça, il devient aussi professeur comme vous plus tard.
D'accord. Professeur, oui. On va accueillir Crispin Moulumba de Lumbashi et Maître Machaka. Et il est également dans la même ville. Crispin, bonjour.
Bonjour, la radio Capi. Bonjour également à tous les auditeurs de l'émission.
Nous parlons de la corruption lors des examens à l'université. Quelle est votre préoccupation?
Vraiment, je suis très content de cette thématique d'aujourd'hui. Dans l'entrée des jeux, parce que vous avez évoqué la ville du Kassai, la province du Kassai central, je suis passé par là, dans une institution de la place, si je peux citer le nom, l'ISP Kananga, précisément dans le département de Matinfo. Alors, vraiment, c'était beaucoup de choses, il y a à boire, à manger là-bas, parce que la plupart des assistants qui sont là-bas viennent franchement, donc ils terminent à l'université précisément à l'ICA et ils sont directement récupérés dans cette institution. Donc là-bas, comme il n'y a plus beaucoup de professeurs, vraiment nous avons vraiment vécu des choses vraiment très difficiles. Raison pour laquelle moi je ne suis pas vraiment d'avis avec les professeurs, votre invité s'il vous plaît, quand tu dis que vraiment les points transmissibles n'existent pas dans les institutions, vraiment moi je suis vraiment la victime. Il y a un jour, si je peux vous relater cette histoire, j'étais parti voir un assistant. On était accompagné des trois étudiantes. Et quand nous sommes arrivés, l'assistant m'avait libéré. Il m'a dit, toi rentre, je reste avec ces deux dames. Alors que ces deux dames, bon, elles étaient aussi intelligentes, mais pas plus que moi. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte vers la fin? La fille avait distingué, avait beaucoup de pourcentages. Et alors que moi, j'étais retenu à la deuxième session. Et autre chose... Vraiment, dire que les assistants ou soit les professeurs sont amis des étudiants vraiment qui sont intelligents, moi je ne suis pas sûr, pas...
Voilà, vous n'êtes pas sûr de cela. Maître Machaka de Lumbashi, bonjour.
Bonjour M. Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Nous parlons
de m'avoir...
Voilà, nous parlons de la lutte contre la corruption lors des examens des deuxièmes sessions à l'université. Quelle est votre préoccupation à ce sujet?
Ma préoccupation, les sujets pertinents, M. Jody. Vous savez, aujourd'hui, cette situation-là fait même, contribue même à la baisse du niveau aux universités, monsieur Jody. Dans un point, je ne suis pas d'accord avec l'invité, dire que ce sont les étudiants qui poussent les assistants à la corruption. Ça, je ne suis pas d'accord, puisque aujourd'hui, si un assistant est sérieux, ce n'est pas les étudiants qui vont l'imposer à dire que non, vous devez nécessairement prendre l'argent. Vous savez, aujourd'hui, ce qui facilite ça, c'est l'impunité, mais c'est joli, puisque je me rends compte quand on était en première gradua ici à l'Université de Lubumbashi, si je me rappelle, en 96, il y avait une situation de corruption dans certains cours des chefs de travaux et des assistants, mais lorsqu'on avait délibéré, à la première session, on s'était rendu compte que les résistants ici ne s'étaient pas formés, on était obligés de marcher et réclamer nos copies des examens. Et le recteur s'était impliqué avec les secrétaires académiques. On avait convoqué tous ces chefs de travaux et assistants pointés dans cette situation pour leur demander de nous donner nos copies. Et ils n'étaient pas en mesure de donner nos copies. Je vous assure, M. Jody, la délibération était annulée. On avait dispensé le cours de ces chefs de travaux et assistants et ils étaient sanctionnés, ils étaient suspendus. Et d'autres étaient même révoqués. Ici, il y a les gens qui connaissent cette histoire de l'Université de Lubumbashi, c'était passé comme ça. Et pendant cette période-là, les gens, d'autres personnes, d'autres assistants, chefs de travaux qui étaient dans le même cas, ils avaient quand même hyper et la situation s'était rendue à la normale. Alors, il faut des sanctions, puisque aujourd'hui, il y a les chefs de travaux et professeurs sérieux, là où les étudiants savent que si je lis, on doit me donner des points. Et les étudiants se donnent totalement à la lecture, à la préparation des examens.
Oui.
Et si vous avez 8 services, on vous donne.
D'accord.
Quand les étudiants sont devenus faibles aujourd'hui, ils savent que même si je lisais dans les cours de tel assistant, tel chef de travaux, il ne va pas me donner des points, parce que je veux lui donner de l'argent. Alors, il faut que les autorités puissent s'impliquer, puisque cette situation, c'est déplorable à tous les niveaux, mes amis.
Merci, Maître Machaka. Professeur, alors s'il est prouvé qu'il y a des cas de corruption, par exemple, les étudiants apportent l'argent et les filles cèdent leur corps pour avoir des points et passer dans la promotion supérieure, quelles sont les mesures à mettre en place pour lutter efficacement contre ces pratiques, professeur Moussengue?
Les mesures, le règlement existe en cette matière. Donc, il n'y a plus à inventer. Le règlement existe en cette matière. Nous demandons à tous ceux qui vivent ce cas-là d'aller dénoncer. Si on dénonce, vous verrez que la loi et les règlements académiques vont s'appliquer. Donc, il ne faut pas seulement, et ce que je demande aux gens, c'est d'éviter de raconter. Vous voyez, par exemple, un intervenant a dit, ils étaient à trois, deux filles et lui, garçon, sont allés chez un assistant au chef de travaux. Il a dit, non, toi, le garçon, tu peux rentrer. Il est resté avec deux filles et les deux filles, aussi c'est une fille, je pense, a eu la distinction. Est-ce que ça s'explique? Donc, est-ce que c'est le fait de retenir ces filles-là qu'elle a eu la distinction? Est-ce qu'un professeur lui seul peut donner autant de points à un étudiant pour que l'étudiant fasse la distinction? Vous savez que la distinction, c'est une somme de points des différents cours qui, ensemble maintenant, font une distinction. Mais ce n'est pas un seul cours. Donc, ce sont des racontards. Monsieur le journaliste, le grand problème qu'il y a, c'est les gens ne reconnaissent pas leurs faiblesses. Bon, c'est dans nos habitudes. Généralement, quand vous êtes dans une situation à problème, au lieu de chercher votre propre responsabilité, quel est le degré de votre culpabilité à ça? Non, on cherche toujours l'autre, on accuse l'autre. Le malheur m'est arrivé, c'est à cause de l'autre. Alors si on ne voit personne, on va maintenant projeter ça à la sorcellerie. Mais voilà, c'est la sorcellerie, ou bien ce sont des mauvais esprits, ainsi de suite. Tout c'est pourquoi nous ne progressons pas. Nous-mêmes, nous ne faisons pas l'introspection pour voir qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont nos faiblesses pour arriver à cette situation.
Voilà,
il faut que chacun fasse l'introspection, voit son propre comportement dans tout ce qui lui arrive. C'est mieux. Donc, La seule solution, c'est l'application de règlements. Ça existe. Donc, si vous êtes victime d'une... c'est vrai, ces actes de corruption peuvent arriver. Mais on ne doit pas généraliser. Si un cas, des cas isolés ne doivent pas être généralisés. Pour, par exemple, un professeur, ou bien un assistant, ou bien un étudiant, en fait ça, vous généralisez ça à tous les étudiants. Et puis, vous faites comme si ce cas était récurrent. Donc, vous oubliez tous les bienfaits. Non, ça, ce sont des cas isolés qui arrivent.
Et quand ça
arrive,
oui.
Parce que nous avons des faiblesses, dénoncez. Quand vous dénoncez, le règlement existe. On va sanctionner ce professeur, on va sanctionner cet étudiant, on va sanctionner le corrupteur et le corrompu.
Alors, par quel mécanisme faut-il dénoncer ces genres de situations?
Aller à l'institution où s'est passé l'acte. Si par exemple l'étudiant est de l'université de Kinshasa, dans chaque université il y a une faculté. Écrivez même une lettre anonyme, allez déposer au bureau du département. J'étais même au couloir. Dès qu'on verra ça, on va amener au chef de département pour la faculté, au chef de section pour les institutions supérieures d'enseignement supérieur, et le chef va lire. Il va mener des enquêtes. Donc, il ne faut pas croire que parce que c'est anonyme, on va rejeter. Non! On ne prendra pas ça directement comme ça, totalement en considération. Parce qu'on va d'abord mener des enquêtes. On va mener des enquêtes jusqu'à ce qu'on va prouver que c'est vrai. Et ils seront sanctionnés. Tout le monde impliqué à cette histoire sera sanctionné. Ces cas qui arrivent, nous connaissons des professeurs qui sont révoqués, nous connaissons des professeurs qui sont suspendus. Ce n'est pas toujours lié au cas de corruption. En fait, je voulais vous faire voir que tout comportement maladroit est sanctionné. Donc, qui est contre le règlement académique est sanctionné.
D'accord. Professeur, on va accueillir Charles qui nous appelle de Kananga. Bonjour, Charles.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Ok. Moi, je regrette beaucoup du fait que les professeurs refusent en bloc tout ce que les gens, surtout les jeunes hommes qui ont parlé à partir de Kananga ici, qui ont montré ce qui se passe dans les institutions ici. Alors, moi, ça m'étonne beaucoup. Je voudrais dire personnellement que j'ai étudié la Bible avec certains étudiants. Et je regrette du fait que ces étudiants-là n'arrivent même pas à lire tout simplement, ils n'arrivent pas à lire. S'ils n'avaient pas corrompu, comment est-ce qu'ils ont obtenu les diplômes juste pas passés au dernier niveau? J'ai répondu encore à un autre étudiant, lors de sa défense, il n'était pas à la hauteur de son travail. On lui a posé une question qu'un élève de l'école primaire pouvait même répondre. Et toute l'assistance avait regretté. Alors je me demande si des gens comme ça arrivent parfois à terminer des études, à décrocher leur diplôme. Ils le font par quels moyens? Donc ce qu'ils trouvent insuffisance, que ce sont des gens qui ont corrompu et les professeurs ont accepté. Surtout celui dont je parle de Kananga, il n'a pas répondu aux questions, mais nous le voyons les jours de collation de grade avec des farines sur la tête. Ça signifie quoi?
Et voilà. Donc Charles confirme que les cas de corruption existent et il s'étonne comment le professeur Gauthier Moussengue ne veut pas reconnaître cela. Odin et Congo nous appellent des Mbandaka. Bonjour.
Bonjour M. Jodim, bonjour aussi à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute Odin. Quelle est votre question?
J'ai bien suivi le poster. Oui, j'ai bien suivi le poster, il a bien dit. Bon, moi je le félicite si lui se comporte comme ça, c'est bien, mais je regrette un peu parce qu'il ne peut pas se faire avocat de tous les professeurs, parce que je suis en Mbandaka, on a vu l'un de mes cousins était étudiant dans une université de la place, et il y a eu un professeur visiteur qui était venu dispenser les cours. Après les cours, les étudiants étaient obligés de lui envoyer un colis à Kinshasa. Donc ils ont acheté des poissons, et puis ils ont envoyé à Kinshasa. Bon, je ne sais pas, mais il dit que non, bon, pour eux, les professeurs, ils ne sont pas habitués de prendre les histoires, ce sont les étudiants. Mais les colis là que les étudiants avaient envoyés à Kinshasa pour les professeurs, qu'ils avaient réussi. Voilà ma question pour ce qui concerne cette émission, j'ai dit, et je vous remercie.
Merci. Shadrach, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, je suis d'avis avec le professeur par rapport à tout ce qu'il a dit. Mais je ne suis pas d'avis avec lui dans la mesure où il dit les assistants sont des collaborateurs des professeurs, bien sûr. Mais il y a de ces professeurs-là, je vous dis qu'ils dispensent plus de 10 cours, plus de 8 cours. Et les professeurs n'ont pas le temps de bien surveiller peut-être le copie. Alors, du fait qu'eux, ils laissent aux assistants, voilà maintenant là où se posent des problèmes. Et vous allez comprendre avec moi, M. Jody, lorsque maintenant ce sont les assistants qui vous corrigent ces copies-là, je vous dis, c'est là où intervient la correction. Je me souviens, en premier cycle, je suis un musulman, il y a l'université officielle des musulmans, je ne peux pas citer notre consort. Un ami a été cautionné, je vous dis, a été cautionné pas mal. Et lorsqu'il était allé pour dénoncer cela, et cela lui a coûté les yeux de la tête. Et jusqu'à aujourd'hui, il a été poursuivi du fait qu'il a été dénoncé. Et il a été, on l'a connu. Alors, cela a suscité de remous de part et d'autre. Et l'ami, jusque-là, n'est plus à l'université. Vous allez comprendre avec moi que non.
Donc, il est allé dénoncer un cas de corruption et puis ça lui a coûté cher.
Tout à fait, du fait qu'il a dénoncé, il y a aussi un principe qui dit les loups ne se mangent pas entre eux. Voilà un peu ce qui lui a coûté. Alors, qu'est-ce que le professeur peut nous dire par rapport à ça?
Merci. Professeur Gauthier.
Oui, monsieur le journaliste, il y a un intervenant qui a parlé d'un étudiant. Il lit la Bible avec certains étudiants. Et il y a... certains lisent mal la Bible. Alors, lui, il ne peut pas comprendre comment de tels étudiants passent de classe et réussissent ainsi de suite.
À la faculté de théologie.
Oui, à la faculté de théologie. Mais ce monsieur doit comprendre que notre intelligence a des... Nous n'avons pas les capacités totales de l'intelligence. Il y a certaines personnes qui sont très aptes à la lecture. D'autres sont moins aptes. Mais ce n'est pas autant dire qu'il n'est pas intelligent. Ça signifie que là, il a d'autres aptitudes. C'est comme, par exemple, il y a certaines personnes qui écrivent très bien. Entre nous, les professeurs, par exemple, il y a ceux qui écrivent très bien. Quand tu les lis, tu sens la profondeur d'analyse dans ses écrits. Il est très intéressant. Mais il parle mal. Ça signifie qu'il ne sait pas bien exprimer ce qu'il dit, plutôt ce qu'il écrit. Donc, pour bien le respecter, il faut le lire. Il y en a d'autres qui parlent très bien. Si vous l'entendez parler, c'est très beau. Mais il n'écrit pas bien. Ça signifie que il est très superficiel dans ses écrits. Donc, quand vous les lisez, il est moins intéressant. Donc, nous avons des attitudes différentes. Moi, peut-être, je peux mal parler, je parle mal, mais j'écris bien. Je suis très intéressant aux écrits. Donc, c'est peut-être le cas de ces étudiants-là. L'étudiant lit mal, il n'est pas courant dans la lecture, mais il écrit très bien. C'est comme aussi le cas de la défense du travail, de mémoire au TFC. Il y a des étudiants, vous savez, le travail, beaucoup de gens voient seulement la défense publique. Il ne s'est pas bien exprimé, il ne s'est pas bien défendu. Alors que la défense publique, là, a 5 sur 20. Donc, dans le travail, vous avez le fond qui a 10 sur 20. Donc, le fond, ça signifie le texte qu'il a écrit. Vous lisez la profondeur d'analyse, ainsi de suite.
Oui.
Le fond a 10 sur 20. La forme, ça signifie la structure du texte, les fautes d'orthographe, ainsi de suite, à 5 sur 10 et sur 20. Et la défense aussi à 5 sur 20. Alors, il peut arriver que l'étudiant a de faiblesses dans le parler. Il ne parle pas bien. Alors qu'il a bien écrit, il a fait un très bon travail. À ce moment-là, vous allez voir, c'est non, mais il n'a pas bien répondu, il n'a pas bien parlé. Alors que le texte est très bon. Donc,
oui, au niveau de fond,
sur 10 oui. déjà, s'il a 7, ou bien il a 8 sur 10. Et au niveau de la forme, il a peut-être 3. Parce qu'il y a moins de fautes, la structure est bonne. Mais la défense, il a peut-être 2 sur 5.
Mais il réussit. Il
professeur,
faut faire la distinction.
Professeur Gauthier, mais
vous allez vous contenter seulement de l'apparence là, de parler là seulement, alors qu'il y a beaucoup d'aspects que vous ne connaissez pas.
Voilà. Il y a Chadrak qui nous dit que la corruption intervient souvent lorsque les professeurs laissent les copies des examens aux assistants pour la correction. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de combines et de magouilles, des corruptions qui interviennent. Alors, il a même donné le cas d'un de ses amis qui a été victime. Il a dénoncé, mais après, cela lui a coûté cher.
Bon, il est vrai que il y a certains... La corruption peut exister. Mais c'est souvent des cas isolés. Les gens en font maintenant une règle, font comme si c'est on ne vit que de ça. Non, certains cas peuvent arriver. Il a dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Non. Est-ce que vous savez que la décision n'est pas prise par une personne? Donc, quand on traite un problème, c'est d'abord le bureau qui traite. Et le bureau ne signifie pas un individu. Ça signifie c'est plusieurs organes. Par exemple, au niveau des départements, vous avez les chefs de département, vous avez les secrétaires de département chargés de la recherche et les secrétaires de département chargés de l'enseignement. Ensemble, ils constituent maintenant le bureau du département. Alors, ce n'est pas les chefs de département, lui seul qui va prendre la décision. Ils discutent ensemble, après, ils amènent le problème au niveau du conseil de département. Et le conseil de département est constitué du bureau du département et de tous les professeurs, chefs de travaux et délégués. Un délégué des étudiants et puis délégué des assistants. Donc, c'est un problème qui est traité dans un conseil, donc dans une réunion. Ça ne se traite pas d'une manière isolée. Ce n'est pas le chef lui seul qui va prendre une décision. Non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Donc, on ne peut pas parler de loups qui ne se mangent pas. Non. On étudie les cas. Si on trouve que le professeur a raison, on lui donne raison. Si le professeur a tort, on les sanctionne. Mais il y a des professeurs qui sont sanctionnés. Je ne sais pas si, peut-être que ces étudiants ne sont pas informés. Peut-être que la sanction du professeur passe dans le silence. Mais les professeurs sont sanctionnés, ceux qui font d'abus.
Bien,
je répète que les gens ne doivent pas croire que les professeurs sont libres. Non. D'autres pays est régi par les règlements et les lois. Il y a les règlements internes qui existent. Nous avons des règlements chez nous à l'enseignement supérieur universitaire. Nous sommes régis par les règlements. Aucun professeur ne fait sans volonté. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes régis par la loi et les règlements. Si vous allez à l'encontre de ça, vous êtes sanctionné, monsieur.
D'accord, on va accueillir Jirès et Maka de Manonville et Kachai de Kananga. Comment lutter contre la corruption lors des examens des deuxièmes sessions à l'université? Jirès et Maka, bonjour. Jirès, vous êtes à Bandundville, bonjour. Voilà, Jirès n'est plus là, on va accueillir Kachai de Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à notre invité, le professeur.
On vous écoute, Kachai.
Oui, merci beaucoup, je suis à Kanyoka, mais j'ai une préoccupation par rapport à tout ce que le professeur a dit concernant la corruption dans nos universités. Mmh. Monsieur Jody, le sujet est... à son temps. Pourquoi? Parce que au moment où je vous parle, les étudiants sont en train de passer les examens de la deuxième session. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en quelque sorte d'accord avec les professeurs et de l'autre côté, je ne suis pas aussi du tout satisfait par rapport à ces allégations. Parce que ce qui s'est fait, il faudrait que les professeurs se déplacent, ils quittent Kinshasa, ils sillonnent un peu la RDC, mais ils vont palper de la réalité. À l'université de Kananga, par exemple, je commence par ce cas-là, mais je ne suis pas de là. Le recteur de cette université-là, selon les informations à notre possession, avait institué un modèle de passation des examens. Le modèle selon lequel les étudiants passent la session avec des copies encodées. Ils n'écrivent pas leur nom sur ces papiers-là, mais on attribue seulement les numéros à chaque étudiant. C'est avec l'idée que qu'il n'y ait pas la corruption, c'est surtout ça. Parce que certaines copies sont des professeurs visiteurs, sont corrigées par les assistants ici sur place. Oui. Alors il y a toujours lieu que les assistants fassent quelque chose au mépris des étudiants. Ils cherchent à ce qu'ils soient suivis à la maison par les étudiants, ainsi de suite. Alors... Commençons par dire que la corruption existe en RDC. Ce n'est pas seulement dans le milieu universitaire.
D'accord. Mais donc, Kachai, vous voulez, oui, vous voulez dire que pour lutter contre la corruption, on peut adopter le système.
Le système là.
Voilà, c'est le système de papier d'examen numéroté.
Borizanga Kombo, c'est comme ça que les étudiants appellent ça, Borizanga Kombo. Et deuxièmement, bien que le règlement d'ordre intérieur existe, mais vous savez, il y a certains professeurs qui enseignent parfois pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et les étudiants à ce moment-là ne sont pas normalement satisfaits. Et ils restent avec les chefs des travaux, ils restent avec les assistants pour expliquer ces cours-là et consorts. Celui qui est payé, c'est le professeur, et l'assistant n'est pas payé. Monsieur Jody, vous pensez qu'un assistant qui n'est pas payé pour un cours de quelqu'un d'autre peut-il l'assurer normalement sans qu'il ne puisse réclamer les droits retour aux étudiants?
Bon,
d'accord. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce qui s'est fait.
D'accord, alors, merci Jirès. Oui, merci Kachai. Merci Kachai.
Une contribution.
On va donner la parole à Jirès et Maka qui nous appelle des bains de Nouville. Bonjour Jirès.
Bonjour Jody, merci pour la parole. Hein, Jody. Moi, je me présente pour cette casquette-là, étant étudiant, mais franchement, j'ai honte même si je me présente sous cette casquette-là. Jody, vous savez que pendant la deuxième session, généralement, les examens, donc les questions que posent les enseignants ne sont pas difficiles, donc assister un procès, je veux dire par là. Et imaginez-vous un étudiant à qui on demande, posez-vous une question et répondez vous-même à cette question, qui est incapable de répondre à cette question-là. Et à quoi s'attend-il? Alors, l'étudiant dira que j'ai payé tous les frais et j'ai droit au passage. Pendant que vous êtes incapable de vous poser une question et de répondre à cette question. Moi, je crois qu'au-delà de ce qu'ont dit les prédécesseurs, l'étudiant congolais n'a plus son niveau. Hein, l'étudiant congolais a perdu son niveau. C'est ce que nous devons faire pour mettre fin à la corruption. Que l'étudiant doit faire un effort pour lire les cours. Quand l'étudiant ne lit pas, il s'attend à corrompre de ce qui fait que. Ce phénomène prend de l'ampleur dans les universités. Mais c'est vraiment regrettable. Je crois que c'est l'étudiant qui est à la base de la corruption lors des examens de la deuxième session.
Donc, vous voulez dire que ce sont les étudiants faibles qui recourent à la corruption pour passer les classes?
La plupart sont les étudiants faibles, papa. Quelqu'un, si on vous demande, posez-vous une question et répondez à cette question, il est incapable. À peine il apprend à écrire son nom, papa. Comment voulez-vous que quelqu'un de ce niveau-là puisse passer de classe?
D'accord, merci. Je vais lire la réaction de un auditeur qui nous a écrit à service@radiocapi.net. Il nous dit ceci, il s'appelle Guido Nkulu depuis Lubumbashi. Ne dit-on pas que l'éducation est une grande arme pour une nation? Il y a corruption lorsque toutes les deux parties s'entendent, étudiants et professeurs. La corruption règne dans les milieux académiques. Il y a certains professeurs corruptibles. Et d'autres non corruptibles, comme les étudiants, il y en a aussi qui sont corruptibles et d'autres non. Ce qui est marrant, les étudiants qui ne lisent pas n'aiment pas les professeurs sérieux ou incorruptibles. Celui-ci les traite, ces derniers les traitent de tous les maux. Mais dans mon parcours académique, j'ai connu des professeurs sérieux. Voilà, c'est ce que nous dit Guido Nkulu depuis Lubumbashi, professeur Gauthier Moussengue.
Monsieur le journaliste, il y a un étudiant, bon, plutôt pas un étudiant, je voulais dire, un intervenant qui a dit, chez eux, il y a, bon, certains enseignants qui sont surtout visiteurs ont beaucoup de cours, par exemple 10 cours. Alors, ils ne savent pas bien suivre et on laisse les copies auprès des assistants. Qui, à leur tour, maintenant, peuvent, on a même donné le cas de, bon, des assistants qui ne sont pas payés, et un assistant qui n'est pas payé, il peut avoir la corruption, tout ça.
Oui.
Ces cas-là peuvent exister. C'est vrai, à l'intérieur, il y a carence d'enseignants. Et, beaucoup d'institutions ont des difficultés d'importer des professeurs. Donc, d'appeler les professeurs pour aller enseigner là-bas, faute d'argent. Surtout que, avec le taux qu'on a baissé pour la prime qu'on donnait, cette situation a créé beaucoup de difficultés dans des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire qui sont à l'intérieur, parce que c'est avec cet argent qu'on payait des professeurs visiteurs. Maintenant, ils sont en grande difficulté pour importer les professeurs et les payer. Mais un autre a donné maintenant la solution. Par exemple, il a dit à l'université de Kananga, ce qu'il a appelé le phénomène Borizanga Kombo, ça signifie que
les papiers de l'étudiant, oui. les copies sont codées, on n'a pas le nom de l'étudiant. Mmh. Voilà un exemple à suivre. C'est le cas de l'IEC aussi. À l'IEC, parce que l'IEC avant, on racontait comme ça aussi, que c'est la corruption terrible. Vous voyez, avec l'actuel DG de l'IEC, il a mis vraiment de l'ordre, on ne parle plus de la corruption à l'IEC. Et c'est justement le système à l'IEC. À l'IEC, on met des codes sur le papier d'examen. Donc, le nom et code sont retenus quelque part dans un bureau, un service. Et quand vous corrigez le papier seulement. Et vous ne savez pas de qui c'est papier. Alors, après, maintenant, on a les notes des étudiants. Donc, si ce cas-là arrive, si les enseignants, si les autorités sont informées des cas de récalcitrants, des cas de corruption qui arrivent comme ça, ils doivent prendre des mesures. Donc, je suis content que cet étudiant-là ait donné le cas de l'université de Kananga. D'ailleurs, c'est un aîné professeur de l'UNIKIM qui est recteur là-bas. Je vais le voir et je vais le féliciter. Il a très bien fait. Donc, dénoncez toujours, s'il arrive des cas comme ça, vous dénoncez et vous verrez que les mesures seront prises pour mettre fin à ça. D'accord. On en a mis fin à l'IEC et ailleurs. D'accord. Voilà, merci beaucoup.
Merci professeur Gauthier Moussengue. Je rappelle que vous êtes sociologue et enseignant à l'université de Kinshasa.